Je ne vous dis pas bonjour évidemment à personne, même si on est après Hatzot et Rabbi Yosef Messas, on va commencer par ça, avait l'habitude de dire que Bimyochad Bador Hazé, et en particulier après Hatzot, il faut moins s'occuper du Khurban et beaucoup plus s'occuper du Binyan et de la Géoula. Si vous me permettez une remarque par rapport à ce que justement j'ai pu entendre les 10 dernières minutes de l'intervention juste avant du témoignage, parce que j'ai fini ma formation un peu plus tôt. Donc j'ai une toute petite remarque à faire. J'étais à l'armée pendant la Hitnatkout et pendant le Guirouche. Et dans ma Yechida, on s'était tous mis d'accord, les 12 de la Yechida, que si jamais on avait été envoyé dans quelque Mahagal que ce soit, on était d'accord pour dire qu'on n'y va pas. Et que s'il faut être Messaref Kouda, et bien on sera Messaref Kouda. S'il faut en passer par là, on passera par là. Par chance, finalement, personne d'entre nous n'a été mobilisé nulle part. Mais je dirais la chose suivante. J'ai eu quand même énormément de questionnements internes avant même de savoir si j'allais être envoyé ou pas. Donc, j'ai été voir mes rabbanim. Qui je suis, j'ai 21 ans, je ne connais rien. J'ai été voir mes rabbanim. Et j'ai été voir tant le Rav Cherki que Reb Avroum Shapira. Et la réponse a été très claire. On m'a dit, pourquoi est-ce que tu poses la question? Arrête. L'État d'Israël, c'est Kadosh, mais on ne va pas changer la Torah à aucun moment. Nous avons le devoir d'écouter nos parents, par exemple, d'après la Halakha. Tout ce qu'ils nous demandent de faire, on doit faire, sauf quand ils nous demandent de transgresser la Torah. Quand mes parents me demandent de transgresser la Torah, bien que j'ai une mitzvah de Kibbud Av V'Em, eh bien, je n'ai pas le droit de transgresser la Torah, point. De la même façon, si l'État d'Israël me demande de transgresser la Torah, eh bien, je n'ai pas le droit de transgresser la Torah, point. Et donc, tant le Rav Cherki que Reb Avraham Shapira nous avaient dit à l'époque que en malasot, on n'a pas le droit de donner la terre d'Israël au goyim, point. C'est tout. Donc, la question de savoir si ça crée un problème par rapport à notre allégeance ou pas, il n'y a pas de problème. On est tout autant fan de l'État d'Israël avant et après le Guérouche au Gouche Katif, parce que l'État d'Israël, c'est Annie, parce que l'État d'Israël, c'est moi, parce que je suis un membre actif de mon État et que je choisis mes représentants. Et si je ne suis pas content de mes représentants, eh bien, je ne les réélirai pas la prochaine fois. Donc, il n'y a pas de problème. L'État d'Israël, c'est Kadosh. Les gens qui peuplent le gouvernement, ou ils sont bien ou ils ne sont pas bien. Et s'ils ne sont pas bien, on les change. Et donc, eh bien, la question, d'après ce que j'ai reçu de mes rabbanim, c'est qu'elle ne se posait même pas. De la même façon que si l'armée me demande de transgresser Shabbat alors qu'il n'y a pas de raison, on va dire, militaire, ben, je n'ai pas le droit de transgresser Shabbat. Eh bien, de la même façon, je n'ai pas le droit de donner une partie de la terre d'Israël. Le grand problème qu'on a eu à cette époque-là, c'est que, et si on parlait du public avec ce qu'on appelle les kippot srugot, eh bien, il y a eu une scission au sein des rabbanim. Et qu'il y a des rabbanim qui ont dit qu'on n'a pas le droit d'être Messaref Pkouda. Et je ne rentre pas évidemment sur qui avait raison. Je n'ai pas la longueur de barbe qu'il faut. Donc, je ne rentre pas dans la question de savoir si on est. Mais à ce moment-là, à partir du moment où il y a des rabbins, quels qu'ils soient, qui ont dit qu'on ne peut pas s'opposer à cette décision-là, eh bien, on avait, à mon sens, perdu la bataille. Je pense que si il avait été question de démanteler Kiryat Sefer ou de démanteler un autre Betar Elit ou une autre ville charédite, jamais de la vie ça aurait marché, parce que tout le monde serait sorti avec les standers à la main pour empêcher n'importe qui de rentrer. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais une chose est sûre, c'est qu'il y aurait eu une paix echad à ce niveau-là. Je pense que l'erreur qu'on a pu faire il y a trop d'années maintenant, c'est qu'au sein de la Hanaga Rabbanite, au sein de la direction des Rabbanim de notre milieu, eh bien, il n'y a pas eu une voix qui s'est élevée. Pour moi, la question ne se posait pas. La voix, c'était Maran Arav Arashi le Israël, Rosh Yeshiva, le Rebbe Avrom Shapira. Donc, pour moi, la question ne se posait pas, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas chez tout le monde. Aval, Bezrat Hashem, on a appris de nos erreurs et on ne refera plus les mêmes problématiques. Et au contraire, on reconstruira le Gouche, et pas seulement le Gouche, et la Kol Chevel Aza Bimera Beyamenu. Amen. Donc voilà, amen. Ça, c'était simplement pour la petite remarque. Alors, les amis.
Toda moi.
Comme dirait mon ami Rabbi Jacob, pas shalom vous, shalom lui, bien sûr. Donc, les amis, maintenant on va pouvoir rentrer dans notre sujet. Beit Shlishi, le troisième Beit Hamikdash, ne va durer que 830 ans. Alors, bon, d'abord, je ne sais pas si vous avez tout de suite eu le déclic mathématique, mais 830 ans, c'est 410 plus 420. 410 ans, c'est le temps où est resté le premier Beit Hamikdash, et 420 ans, c'est le temps où est resté le deuxième Beit Hamikdash. Et donc, quand je te dis le troisième Beit Hamikdash, il va durer 830 ans, ça serait un mix du premier et du deuxième. Alors, évidemment, est-ce que c'est moi, Ethan Fison, qui te dis cela ? La réponse est évidemment que non. Oui. Mesdames, messieurs, au revoir. Merci, on peut fermer la porte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Top. Alors, voilà. Donc, quand je dis 830 ans, donc c'est le mix entre le premier et le second. Mais, évidemment, ça ne vient pas de moi. Il y a, dans le traité de Sanhédrin, à la fin du traité de Sanhédrin, je ne dis pas une page en particulier, parce que ce n'est pas dans les pages, c'est après la Gemara de Sanhédrin, dans certaines éditions du Talmud, les éditions en général qui sont avec beaucoup, beaucoup de commentateurs derrière, eh bien, vous pouvez trouver, après le Rif, après le Rosh, eh bien, vous pouvez trouver imprimé Tosfot Chachme Anglia. Tosfot Chachme Anglia, c'est Chachme Anglia, depuis qu'ils sont revenus en Angleterre, sous l'impulsion de Cromwell au XVIIe siècle. Eh bien, là-bas, Tosfot Chachme Anglia nous disent Bet Beit Shlishi, il va durer 830 ans. Alors, tu vois, je te le balance comme ça en pitch du chiour, avant même de commencer à prouver quoi que ce soit. Et la question qu'on se pose, c'est bon, bah, pourquoi pas 830 ans, mais quoi ? Ça veut dire qu'au bout de 831 ans, Yeshrur Ban, il y a de nouveau une destruction du Beit Shlishi au bout de 830 ans. Bien, les amis, c'est de cela que j'aimerais vous parler d'abord aujourd'hui. Alors, tout d'abord, j'aimerais m'auto-corriger. Parce que quand on parle de reconstruction du Beit Hamikdash Slicha et qu'on parle du Beit Shlishi, en vrai, vous le savez bien, on ne devrait pas parler du Beit Shlishi. On devrait parler du Beit Hamishi. Eh oui, nous n'attendons pas la reconstruction du troisième temple, mais nous attendons la reconstruction du cinquième temple. Ah ben oui, parce qu'en vérité, il y a déjà eu un troisième et il y a déjà eu un pseudo quatrième aussi. Ah ben oui, ah les amis, il faut le savoir. Lorsque Shlomo crée le Beit Hamikdash Birushalayim, c'est le premier Beit Hamikdash. Lorsque Ezra avec Nehemia vont reconstruire le Beit Hamikdash, c'est le deuxième temple. Les Hashmonaïm, à l'époque de Hanouka, après la conquête et la reconquête, si tu veux, de Hanouka, et le fait que les Hashmonaïm aient eu un petit peu plus de puissance, ils vont agrandir un petit peu le Beit Hamikdash, ils vont faire un Tama 38, si vous voyez ce que je veux dire. Mais après arrive Hérode. Or, quand nous, on parle du Beit Sheni et qu'on montre les images du deuxième temple et les dessins du Machon Hamikdash, eh bien, ça fait référence au temple de Hérode. Le problème, c'est que le temple de Hérode, eh bien, pour qu'il soit construit tel qu'il a été, Hérode a d'abord détruit le Beit Sheni. C'est-à-dire que ce qu'Hérode a fait n'était pas un Tama 38, c'était ce qu'on appelle pinouille binouille. Il a complètement détruit le Beth Amikdash et ensuite il l'a reconstruit. Alors on a l'habitude de dire que c'est toujours le deuxième temple parce que c'est pas qu'il l'a détruit, il l'a détruit pour le reconstruire. Les pierres étaient déjà là. Mais il n'empêche que le temple de Hérode, eh ben concrètement, c'est un troisième Beth Amikdash dans l'histoire juive. Et puis, bon, alors on sait, les Romains l'ont détruit, mais il y a eu, quelque temps plus tard, eh bien, un quatrième Beth Amikdash. Et quel est le quatrième Beth Amikdash? Avez-vous entendu parler de Julianus Akofer? Ou alors en français, Julien l'apostat. C'est qui ce mec? Eh bien, Julien n'était autre que l'empereur de Rome. Il est l'empereur qui a succédé à Constantin. Or, Constantin, l'empereur romain, avait été celui qui avait chamboulé complètement l'Empire romain en le transformant en empire chrétien. Il avait accepté la religion chrétienne et a transformé tout l'empire en empire chrétien. Julien arrive derrière lui, mais Julien, il n'est pas chrétien. Il a envie de ramener à Rome tout le polythéisme et le panthéon romain. Et donc, il se dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et alors que les chrétiens étaient très, très anti-juifs dès le départ, eh bien, Julien va donner la permission aux juifs, on est au 4e siècle, il va donner la permission aux juifs de Jérusalem de reconstruire le Beth Amikdash uniquement pour embêter les chrétiens. Et alors, les juifs vont se donner à cœur joie, ils vont rassembler tous les matériaux pour reconstruire le quatrième temple, et la légende, l'histoire, mélanger un peu les deux, nous raconte que Erev Trilat Abnia, que la veille du début des constructions, il y a eu un grand incendie qui a détruit tous les matériaux de construction, et les Juifs ont vu ça comme un signe, comme quoi Kadosh Baruch Hu n'était pas d'accord qu'on reconstruise le Beth Amikdash. En tout cas, si on accepte ce début de création comme étant quatrième, eh bien on attend le cinquième Beth Amikdash. Ce sera un Beth Amikdash tunisien, pourquoi pas. En tout cas, ce cinquième ou troisième, l'homme chané, Beth Amikdash, eh bien, les amis, avant de dire qu'il va rester 830 ans, on attend tous qu'on puisse le reconstruire. Et la question qu'on doit se poser en premier lieu, c'est est-ce qu'on va le reconstruire? Parce que, Imkol Hakavod, cette année, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Parce que Tisha B'Av, on n'a pas le droit de s'énerver. C'est pas bien de s'énerver, il faut faire preuve de Havat Rinam et il faut s'écarter de toute possibilité de Sinat Rinam. Donc, j'ai fait une erreur. Hier soir, en rentrant de la Tfila, de la Megillah, eh bien, j'ai commencé à regarder un petit peu ci et là sur les internets les différents cours qui étaient proposés sur Tisha B'Av. J'aurais pas dû faire ça. Parce que très souvent, j'ai entendu d'abord présenter un peuple juif aujourd'hui en 2021 qui est, franchement, d'après ce que j'entends, on est pire que ce qu'on n'a jamais été. Tu peux voir à quel point les gens ils te disent dans des cours sur Internet à quel point on est dans une galoute terrible. Oh, Ribono shel Olam, on n'en peut plus, fais quelque chose, aide-nous! Eh bien, franchement, moi, je tiens à vous dire que je n'ai pas cette impression-là. D'ailleurs, je vais vous dire très honnêtement, j'ai été vendredi à 4h30. Donc, vendredi, 4h30, maman, juste avant Shabbat, c'était un grand, grand, grand miftza pour que ma maison soit prête à ce moment-là, que tout soit prêt pour Shabbat et tout. En plus, on avait plein d'invités Shabbat. Mais on a réussi et à 4h30, ma femme et moi, on est parti de la maison et on est allé à la Cinémathèque de Jérusalem. Sans vous expliquer que la Cinémathèque, c'est quand même un endroit qui se trouve à Gay Ben Hinnom, c'est-à-dire un endroit où on brûlait des enfants au Moller il y a 3000 ans. Donc déjà, la situation a un petit peu évolué dans le bon sens. Certes, la Cinémathèque, ce n'est pas l'endroit le plus cachère de l'univers, mais on n'y brûle plus des bébés au Moller. Donc c'est déjà une bonne évolution. Maintenant, je vous le dis, Gilouï Naot, je ne vais pas au cinéma, mais des fois, à la Cinémathèque, ils font des projections particulières sur certains films en particulier. Et en l'occurrence, eh bien là, ils ont projeté à 4h30 le film qui s'appelle Agadot Achourban. Et alors, je tiens à vous dire que j'ai été bluffé. Bon, d'abord parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne savais pas que tout le film, c'était des dessins. Ça, moi, je pensais que j'allais voir un film. Mais en fait, tout le film, c'est des dessins sur lesquels on fait parler les personnages et de la musique. C'est très, très bien fait. Et ça montre extrêmement bien. Bon, alors, ce n'est pas de l'orgueil. Hein. Je ne me la pète pas du tout. Mais je vous avoue qu'en tant que Morederer et qui aime beaucoup l'histoire et machin, j'ai rien appris dans le film. J'ai même pu relever deux, trois erreurs. Mais franchement, il est très bien. Et il démontre très bien la Sinatrinam qu'il y avait à Jérusalem à ce moment-là. C'est ça l'accent du film. Et quand j'entends des gens dire, ouais, mais aujourd'hui, on est dans la même situation. Rabotaï, non, mamashlo. Mais alors vraiment pas, quoi. C'est-à-dire que, certes, on se dispute, certes, il y a des crimes dans la société israélienne, c'est vrai. Mais Adéraba, moi, je vois qu'il y a 2000 ans, quand les Romains étaient à nos portes, eh ben, on n'a rien trouvé de plus intelligent que de s'auto-brûler les réserves de nourriture pour amener le peuple juif à une situation de famine terrible. Je veux dire, le sang qui a coulé à Jérusalem avant que les Romains rentrent dans la ville, c'était à cause de nous, hein. C'est nous qui nous sommes entretués. Eh bien, on n'en est pas là, les amis. Les amis, aujourd'hui, quand il y a un problème dans le peuple juif, quand on est attaqué, on est en danger, d'Afka, on voit qu'il y a une achdout énorme. Alors, c'est sûr, on aimerait que cette achdout, elle continue même quand tout va bien. Mais tu vois bien qu'on n'en est pas au niveau d'il y a 2000 ans. Donc, Bémet, quand on pose la question, est-ce qu'il faut construire le Beth Amikdash? Eh bien, c'est vraiment une question que je pose parce que quand tu entends différents rabbinim, tu as vraiment l'impression que ce n'est pas de notre fait. Le film dont je parlais, c'était Agadot Achourban. Agadot Achourban, tout simplement. Quand on entend certains parler, on n'a pas l'impression que c'est de notre fait la possibilité de reconstruire le Beth Amikdash. Et on entend de plus en plus, et ça me rend fou, parce que plus le temps passe, et plus on est censé être grand, et plus on entend des gens qui veulent nous faire redevenir petits. Qu'est-ce que ça veut dire redevenir petit? Eh bien, dans la conscience collective, et chez les Français aussi, ben mec, le Beth Amikdash, il va tomber du ciel. C'est génial! C'est un vrai film de science-fiction, le Beth Amikdash. Il y a certainement un astéroïde qui se balade en orbite à côté de Mars, avec un Beth Amikdash tout prêt à l'emploi construit dessus, et Bezrat Hashem, eh ben un jour, il va descendre sur Terre. Et Ribono shel Olam, non! Et c'est pour ça que j'aimerais voir un petit peu quels ont été les avis proposés par nos Chachamim. Au fur et à mesure de l'histoire. Je voudrais simplement, avant de vous dire les avis différents des rabbanim, vous rappeler une chose. Ein mikra yotze mide pshuto. Oui, voilà, ça doit être pour ça que Monsieur Bronson est parti dans l'espace. Il voulait retrouver le Beth Amikdash qui était perdu là-bas, certainement. Bekitsour, les amis, de quoi on est en train de parler? En mikra yotze mide pshuto. C'est un grand principe du judaïsme. Vous le savez, il y a plusieurs niveaux de lecture dans la Torah. Je ne vous apprends rien. Il y a le pshat, il y a le remez, il y a le drash, le sod, beseder. Aval, en aucun cas, vous ne pouvez enlever le pshat, c'est-à-dire la compréhension littérale, simple, de l'équation. C'est-à-dire que les explications ésotériques, elles sont évidemment importantes et profondes et vraies, mais elles ne peuvent pas remplacer l'explication simple. Je vous donne un exemple. Il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de manger de cochon. Ben moi, je pense que s'il y a marqué qu'il y a pas de, qu'on n'a pas le droit de manger de cochon, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger de cochon. C'est révolutionnaire, je sais. Mais il y a des chrétiens qui ont dit, j'ai pas dit des crétins, hein, des chrétiens, qui ont dit, ben oui, mais quand il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de manger de cochon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en manger. Ça veut dire qu'il ne faut pas se salir l'âme tel que le cochon se roule dans la boue. Bon, je ne suis pas contre l'idée qu'il ne faut pas se salir l'âme. Mais quand il y a marqué qu'il ne faut pas manger de cochon, ça veut dire qu'il ne faut pas manger de cochon. D'abord et avant tout. Pourquoi je dis ça comme introduction? Bien parce que les amis, nous avons une mitzvah d'Oraïta de construire le Beth Amikdash. Donc, il faut arrêter avec le Beth Amikdash qui tombe du ciel. Nous avons un commandement de prendre des cailloux et de faire le Beth Amikdash. Ze mitzvah taseh shel Torah, c'est l'avis du Rambam. Dans le Sefer HaMitzvot du Rambam, mitzvah 20, le Rambam nous dit « Mitzvah livnot bayit la'Hashem ». Point. Nous avons donc un commandement positif de faire le Beth Amikdash. Donc, il ne faut pas attendre qu'il tombe du ciel. Il faut que nous, en Israël, on le reconstruise. Ça, c'est l'avis, Rabotai, du Rambam. Mais évidemment, vous l'aurez compris, il y a d'autres avis, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Il y a un avis qu'on a tendance à donner à Rashi. Hoppa, hoppa. Qu'est-ce qui se passe?
Vas-y, mets-nous un petit Rambam, là, comme il faut. Que les gens, ils entendent bien.
Comment tu savais que tu avais préparé ça, déjà?
Non, j'ai rien préparé. Vas-y.
D'où ça vient, ce truc? C'est fantastique.
Du reste, c'est du Rambam. Rambam,
non, mais je sais bien, mais d'où ça vient que toi, tu l'as préparé déjà, que tu savais que j'allais dire ça?
J'ai rien dit. Alors, voilà, fais Nilou, comme il faut.
Extraordinaire. Mitzvah tase la sod bait la Hashem. Mouchan liot makrivim bo akorbanot vechogigim alav shalosh pa'amim bashana sheneemar. Donc ça, c'est, tu nous as amené le Rambam dans Ilchot Bet HaBechira, chapitre 1, Halakha 1. C'est-à-dire, moi, je vous ai amené le Sefer HaMitzvot, mais c'est pareil, hein, dans le Sefer HaMitzvot, mitzvah numéro 20. Mais Kitzur, nous avons donc une mitzvah de construire le Bet HaMikdash. Ça, c'est l'avis du Rambam, il est clair, il est, voilà, il est sans appel. Il y a un autre avis qu'on tente à mettre dans les mots de Rashi, qui serait tenté de dire, et ce serait aussi l'avis de Tosfot, que, non, en fait, le Beth Amikdash, il va tomber du ciel. Mais, en fait, ce n'est pas l'avis de Rashi. C'est l'avis de Rashi dans la Sugya, dans Maseret Souka, dans lequel il pose la question, qu'est-ce qui se passe si Akadosh Baruch Hu, il emmène la Geoula Kerefaïn? C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu, il emmène une Geoula pouf, magique, ben, il peut, il fait ce qu'il veut, Dieu. Donc Rashi, à ce moment-là, pose la question, et qu'est-ce qu'on fait du Beth Amikdash? Il dit, bon, à ce moment-là, il tombera du ciel. Sauf que le même Rashi nous dit, à 17 autres endroits dans le Talmud, et dans Souka, et dans Sanhedrin, et dans Psachim, qu'on va reconstruire le Beth Amikdash, comme on a construit le premier et le second. Donc il y aurait un avis qui dirait que Rashi dit qu'il va tomber du ciel, mais en fait, on a compris que non. Il y a un troisième avis, effectivement, on ne peut pas le nier non plus. C'est un avis qu'on pourrait trouver chez Rabbeinu Avraham Ibn Ezra, qui nous dit que le Beth Amikdash, il va tomber, on va le reconstruire, et ensuite la Shrina, elle va descendre du ciel. On va reconstruire le Beth Amikdash, et ensuite il va tomber du ciel. C'est-à-dire la Shrina va tomber du ciel. Il y a l'avis, évidemment, de Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, qui nous dit que Dieu il va reconstruire le Beth Amikdash et nous, on terminera les finitions. Qu'on mettra les ampoules dans les bâtés menorot. Mais il y a également l'avis, et c'est, je vous le dis, ce n'est que mon avis, évidemment, mais c'est, à mon sens, l'avis qui est le bon, à savoir l'avis du Ramchal. Le Ramchal qui nous écrit dans un livre sur le Beth Amikdash qui s'appelle Mishkene Elion, eh bien le Ramchal nous dit que le Beth Amikdash il va tomber du ciel et ensuite on va le construire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand on te dit qu'il y a un Beth Amikdash qui est banouy umshukhlal bashamaim, qui est déjà pré-construit bashamaim, ça ne veut en aucun cas dire qu'il est sur un astéroïde. C'est-à-dire qu'il y a un Beth Amikdash métaphysique qui est prêt, mais ce n'est pas du tout physique. Et donc, ce Beth Amikdash, la Shrina, va descendre, et à ce moment-là, Israël va commencer à mettre les pierres et elle va construire. Donc, nous allons construire le Beth Amikdash parce qu'on aura compris qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que c'est le moment. Chez là, c'est que ça sera quand? C'est quand qu'on va construire le troisième Beth Amikdash ou cinquième Beth Amikdash, comme on a dit tout à l'heure? Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que dans un cours que j'ai donné sur Achol HaMoed Sukkot, je crois, sur la Megillah de Kohelet, eh bien, j'ai fait un calcul avec vous sur la Megillah de Kohelet et je suis arrivé à un Beth Amikdash qui va être reconstruit en 2024-2025. Et je vous rappelle le calcul que j'avais fait selon Kohelet, qui est en fait le calcul se basant sur les 28 etim qu'il y a dans le Sefer Kohelet, qui termine par Et Shalom. Chazal nous expliquant que Shalom Zebet Amikdash, eh bien, je vous avais expliqué à l'époque que j'avais pris tout simplement eh bien, les 6000 ans de l'histoire humaine telle que nous enseigne la Gemara dans le traité de Yoma, et je les ai divisés par 28, on arrive à peu près 214 ans. Et donc, eh bien, si tu vois que le Et Shalom, il commence un peu plus que 214 ans avant l'an 6000, ça nous amène en 2025. 2024-2025. Et donc, j'ai dit, voilà, Beth Amikdash, 2024-2025, Yalla, Lamalo. Et j'ai calmé tout le monde en disant, mais je suis en train de faire des calculs de date. Or, on n'a pas le droit de faire de calculs de date. Eh bien, je vous rassure, tous les rabbins ont dit qu'on n'a pas le droit de faire des calculs de date. Et tous les rabbins qui ont dit qu'on n'a pas le droit de faire de calculs, ils en ont fait quand même. Et ils se sont tous trompés. Donc, il y a forte chance que moi aussi, je me trompe. Mais en tout cas, ça, c'était l'avis d'après le calcul d'après Kohelet. D'après le livre de Daniel, il y a un autre calcul qui est mis en place, et sans rentrer dans tous les versets, il semblerait que ça nous amène à 2027. Et si on prend un autre calcul qu'on pourrait mettre en place suite au fait que, nous dit le Sefer HaZohar, que Beth Amikdash HaShlishi ou HaItgashmut Shel Koach Ma'asa Vigid Le'amo, c'est la réalisation de Koach Ma'asav. Eh bien, Koach Ze en Gematria 28, je sais que je vous ai déjà perdu, t'en fais pas. Et que donc, ça veut dire que dans la mesure où le Beth Amikdash, il se reconstruit par palier de 70 ans, 70 ans entre la destruction du premier et la reconstruction du second, et il y a également 210 ans, et oui, 210 ans entre le départ en Égypte et la sortie d'Égypte, il y a toujours une foula de 70. Et donc, si on prend cette fois Koach, c'est-à-dire 70 fois 21, eh bien, on va arriver là aussi à un Beth Amikdash qui serait reconstruit dans les années Machoukmo 2027-2028. Tav, Rabotai! Je ne sais pas s'il va se reconstruire en 2025, 2026, 2027, 2028. L'homme chané. Bémet, quand on le reconstruira, on le reconstruira. Le plus tôt sera le mieux. Et ça peut être même avant. Mais pourquoi alors je dis qu'il va durer 830 ans? Alors effectivement, Tosfot, Rahmé, Anglia nous ont dit que c'était le Shilouv, la synthèse entre Bait Rishon et Bait Sheni. Mais en vérité, ça va beaucoup plus loin. Le Rav Kook nous explique dans She'elot u'Tshuvot Mishpat Kohen, nous explique qu'en vérité, le Bait Shlishi doit synthétiser ce que représentait, pas seulement en termes d'années, mais ce que représentait Bait Rishon et Bayit Sheni. Bayit Rishon, c'était Kdushat Aklal, la Kedusha de l'entité collective. Attendez, il y a une question ici, mais je ne vois pas la fin. Exactement, c'est exactement ce que je te dis. Le Rashi dont tu parles, il est tiré du Talmud. C'est-à-dire que le Rashi que tu vas retrouver dans Jérémie, eh bien, c'est le même Rashi qu'on va retrouver dans le Talmud. Et donc, j'ai dit, Nachon, Rashi te dit ça à un moment donné, mais Rashi, le même Rashi, il te dit aussi à beaucoup plus de fréquence qu'on va le reconstruire. Donc, si tu veux admettre Rashi, dans tous les cas, ça ne veut pas dire que le Beit HaMikdash qui est déjà prêt, que Kadosh Baruch Hu fait descendre, c'est un Beit HaMikdash physique. Le Beit HaMikdash physique, eh bien, on devra, mal à sot, se retrousser les manches et le reconstruire. Et donc, le Beit HaMikdash à Rishon, c'était Kdushat HaKlal. Il y avait, où pourra-t-on le reconstruire ? Là où il était déjà en place. On sait où on doit le reconstruire. Harabait, sur le mont du Temple. D'ailleurs, les musulmans sont très sympathiques. Ils nous ont gardé l'endroit au chaud. Ils ont construit un dôme doré tout au-dessus, exprès pour que le lieu ne soit pas attaqué par l'érosion. C'est plein, c'est bien, non ? Le Mishkan dans le désert ne compte pas ? Non, il ne compte pas. Pourquoi est-ce que le Mishkan dans le désert ne compte pas ? Eh bien, parce qu'il n'est pas à sa place. La place du Beit HaMikdash, telle qu'on le dit tous les jours dans la Shirat Hayam, c'est Teviemo Vetitaemo Be'ar Nachalatecha, Machon Meshiftecha Pa'alta Hashem, Mikdash Hashem Konenu Yadecha, Be'ar Nachalatecha, c'est où la montagne de ton héritage ? Eh bien, c'est le mont du Temple. Donc, nous savons où nous devons construire le Beit HaMikdash, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, Bekitsour, avec le Mashiach comme chef de chantier, alors, puisque ça fait partie de ce qu'il devra faire. Avec le Mashiach comme chef de chantier, ou pas. Le même Rav Kook que j'ai cité tout à l'heure nous dit qu'on peut construire le Beit HaMikdash avant le Mashiach. Et le Mashiach peut être le dirigeant du peuple juif au moment où on le construit, mais ce n'est pas pour ça que directement on le reconnaîtra comme étant Monsieur Mashiach. Puisque le Mashiach, d'après les lois sur le Mashiach dans le Rambam, il a plusieurs choses à faire, et ce n'est qu'après avoir réussi toutes les choses qu'il est Bémet Mashiach. Or, l'ordre des choses telle qu'elle est présentée dans le Rambam n'est pas un ordre déterminant. On doit faire tous les trucs, mais pas forcément dans le même ordre qui est marqué dans le Rambam. Donc, peut-être qu'effectivement, il y aura quelqu'un qui sera à la tête du peuple juif au moment où on construit le Beit HaMikdash, mais qui finalement mourra avant qu'on ait terminé, je ne sais pas, de ramener les Juifs de France en Israël. D'ailleurs, donc ce ne sera pas lui le Melech HaMashiach. Ça aurait été quelqu'un qui aurait pu être le Mashiach, mais qui finalement ne l'aura pas été. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Mais enfin, c'est pas shoot, merde, qu'est-ce qu'on attend ? Tu comprends bien que le Beit HaMikdash, c'est pas quelque chose que toi et moi, on va aller demain, on va prendre une pelle et on va aller au mont du Temple et on va construire le Beit HaMikdash. Ça fait partie des mitzvot collectives, c'est-à-dire que c'est le peuple juif qui doit le mettre en place. Aujourd'hui, le peuple juif, eh bien, ils sont représentés par la Knesset, par le Parlement israélien. Il faut que demain, il y ait une loi qui soit votée, qui s'appelle la loi pour le Beit HaMikdash. Et à ce moment-là, eh bien, on reconstruira le Beit HaMikdash. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à voter pour des députés, aux prochaines élections, une majorité de députés qui veulent le Beit HaMikdash. Et comme ça, ils pourront proposer une loi qui passera à la majorité. C'est pas chouette, non ? Pas chouette, merde ? Bekitsour, revenons à nos moutons. C'est mal barré pour l'instant. Aïe, 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 mais quel est ce pessimisme ? Quel est ce pessimisme ? Mais non ! J'ai vu aujourd'hui, d'ailleurs, un Haver Knesset qui est monté sur le mont du Temple. Ben voilà, c'est en chemin. Tov, yalla, nous. Pas besoin d'un Sanhédrin. Je ne sais pas, c'est une question, c'est une réponse, c'est une affirmation. Non, on n'a pas besoin du Sanhédrin pour reconstruire le Beth Amikdash. On n'a pas besoin d'attendre le Beth Amikdash non plus pour refaire le Sanhédrin. Ce sont deux entités différentes. Il est évident que dans l'idéal, les deux sont au même endroit, puisque le Sanhédrin doit s'installer au Lishkat HaGazit, au Beth Amikdash. Il y a déjà Mashiach, Baruch HaShem, comme à chaque génération. Encore faut-il que tout l'âme Israël connaisse, connaisse, le reconnaisse en tant que tel. Eh bien non. Désolé de vous contredire, madame. De dire qu'il y a le Mashiach aujourd'hui, c'est comme de dire que quand on dit qu'il ne faut pas manger de cochon, ça veut dire qu'il ne faut pas se salir l'âme. C'est nachon que nos sages nous disent que dans chaque génération, Yesh Melech HaMashiach. Mais tant que ce n'est qu'au niveau du potentiel, alors il n'est pas là. Zeshum Davar en potentiel. Nachon en potentiel. Mais potentiel, ça ne veut rien dire concrètement. Donc, à force de faire vivre le judaïsme et les juifs sur des idées métaphoriques, eh bien, on est justement, on arrête de vouloir agir. Vous savez, il y a une chanson qu'on chantait dans les mouvements de jeunesse qui disait « Am ha-netzach lo mefachen miderech aroka ». Am ha-netzach lo mefachen miderech aroka. C'est une phrase qui est terrible. Parce que comme on sait qu'on est Am ha-netzach, eh ben on n'a pas peur d'un long chemin. Et résultat des courses, on ne bosse pas. Et on attend, et on attend, et on attend. D'ailleurs, d'attendre. Il faut faire. Donc, Bekitsour, tout ça pour dire que le premier Beth Amikdash, c'était Gdushat HaKlal. La Mamlacha, à l'époque de Shlomo, elle était au top. Mais il n'y avait pas Gdushat HaPrat. Au niveau de l'individu, Avodah Zara, Gilou Rayot, Shfichut Damim, donc, il y avait une très grande dimension au niveau collectif, mais pas au niveau individuel. Le Beth Amikdash a été détruit par les Babyloniens. 70 ans plus tard, on a reconstruit le deuxième temple. Sois un bâtisseur et non un discuteur, comme diraient certains. Serais-tu un membre des EEIF. En tout cas, le deuxième temple n'est absolument pas la correction du premier. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas une interdiction de monter sur le Har HaBayit aujourd'hui? Eh bien, c'est une très très bonne question à laquelle je ne sais pas si j'ai l'autorisation de l'Ilmod et de Horod Vekelim de rentrer dedans, parce que ça risque de nous faire partir très, 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 très loin. Donc, je vais répondre très simplement en disant que le député en question qui est monté sur le mont du Temple ce matin, eh bien, a posté dans son commentaire qu'il est monté en état de pureté tel que lui ont permis ses maîtres, tel que lui ont permis ses rabbanim. Donc, ça veut dire que même s'il y a un interdit, si toi, tu y vas parce que tes rabbins t'ont permis, donc toi, tu es bécédère. À la limite, le problème, c'est les rabbins qui ont permis. Il y a aujourd'hui une marloquette, comme dans tous les sujets de la halakha, il y a une marloquette de savoir est-ce qu'on a le droit de monter au Har HaBayit aujourd'hui ou pas. C'est-à-dire, c'est une marloquette. On n'est pas né d'hier, ce n'est pas la première marloquette. Il y a des rabbins qui interdisent, il y a des rabbins qui permettent. Tout le débat est de savoir, est-ce qu'on sait aujourd'hui quels sont les endroits qui sont permis qu'en état de pureté totale, c'est-à-dire avec quand on s'est pris les cendres de la vache rousse, on a été aspergé de cela, mais qu'on est en état de pureté complète, c'est-à-dire la Hazara et tout ce qui est Kohen, Kodesh et Kodesh à Kodashim. Donc, ces endroits-là, on n'a pas le droit d'y aller aujourd'hui du tout. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'on sait aujourd'hui où est l'endroit où on a le droit d'aller simplement après avoir été au mikvé, ou est-ce qu'on ne sait pas où sont les endroits ? Les rabbins qui interdisent disent qu'on ne sait pas où sont les endroits, et donc de peur qu'on rentre dans des endroits interdits et que ce soit issur karet, eh bien, ils interdisent. Et les rabbins qui permettent, c'est parce qu'ils disent, nous, on sait où c'est, et donc on a le droit d'aller à certains endroits. Les endroits où on n'a pas le droit d'aller, on ne va pas. Et les endroits où on a le droit d'aller, on va. Et c'est d'ailleurs, pour eux, une mitzvah. Oui, David ? David, tu as levé la main. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Non. Vas-y, continue.
D'accord. Tov, Bekitsour. Donc, tout ça pour dire que le premier Beit HaMikdash, c'était Kdushat HaKlal. Le deuxième Beit HaMikdash, c'était Kdushat HaPrat. Il n'y avait pas du tout de Kdushat HaKlal dans le deuxième Beit HaMikdash. Par contre, il y avait Kdushat HaPrat. On était des tzadikim. Oui, des tzadikim de la halakha, pas de problème. Seulement, on était tellement tzadikim individuellement, eh bien, qu'on a été capable de s'autodétruire dans une Jérusalem où il y avait des tzadikim. Parce qu'on était tzadikim. Mais j'étais copain que des tzadikim qui pensent comme moi. Les tzadikim qui ne pensent pas comme moi, eh bien, je suis prêt à les tourner en dérision, je suis prêt à me moquer d'eux, je suis prêt à faire des shaming sur Facebook, je suis prêt à dire que c'est des charlatans, des mécréants, des tout ce que tu veux. Bon, évidemment, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit, involontaire, bien sûr. Mais quand tu repenses deux secondes à l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, cette fameuse histoire que nos sages nous disent qu'à cause d'elle, Jérusalem a été détruite, je vous rappelle que dans le festin de M. Kamsa, enfin non, c'est vrai, de M. Ahou Gavra, de M. qui a fait le festin, qu'on ne connaît même pas son nom, il y avait tous les rabbins de Jérusalem. Et personne ne s'est révolté contre cet agissement qui fait honte à son prochain. Si vous... Attendez, j'ai bugué, il y avait une question. Si vous permettez d'envisager le temple dans ces dates-là, alors Mashiach est déjà là, même non dévoilé. Eh bien, ma réponse est très simple. On ne sait rien. Ni l'est. Vous savez, hein, tout peut se passer en très très peu de temps. Hein. Baruch HaShem. Quoi qu'il en soit, ça c'était le deuxième temple. Gdushat HaPrat, mais sans aucune connexion entre les différents pratim. Si bien qu'on va avoir, eh bien, Beit Hillel, Beit Shammai, qui vont s'entretuer, Beit Hillel, Beit Shammai. Si bien qu'on va avoir Purushim, Tzdukim, qui vont s'entretuer. Qu'on va avoir Kanaïm, qui vont massacrer tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Même d'autres Kanaïm. Oui, Kamsa et Bar Kamsa, par exemple. Bekitsour, Kdushat HaPrat, mais aucune relation au niveau du klal. Bayit Shlishi, vous l'aurez donc compris, il doit être la connexion du klal et du prat. La vérité, on apprend, on n'invente rien. C'est ce qu'on dit tous les matins dans les Shlosh Esre Midot chez Torah Nidreshet Bahem. Klal Shehu Tzarich Lifrat. Vefrat, Shehu Tzarich Liklal. Du klal et du prat. Qu'il se passe avec les Canaïm et qui sont-ils exactement? Eh bien, ça, c'est une très bonne question historique. À laquelle, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment répondre avec le temps qui m'est imparti, les Canaïm étaient une faction de juifs à Jérusalem à la fin de l'époque du Second Temple, qui, comme leur nom l'indique, étaient Canaïm, vengeurs, et ils voulaient, par des actions, faire dégager les Romains d'Eretz Israël, et pour cela, ils étaient prêts à massacrer tous ceux qui ne pensaient pas comme eux. Beaucoup de Romains et aussi beaucoup de juifs. Est-ce que c'était des gens bien? L'Erteda, je ne peux pas les juger. c'était une situation vraiment compliquée. Il y a plein de choses avec lesquelles je n'arrive pas à être d'accord, j'ai froid dans le dos. Mais il y a plein de choses avec lesquelles je ne peux pas être d'accord avec les autres qui ne voulaient pas faire d'action contre les Romains. Donc, ce n'est pas clair. Parmi les Canaïm, nous avons Rabban Shimon ben Gamliel, qui était nassi à Sanhedrin. Donc, ce n'est pas n'importe qui. On avait un homme qui s'appelait Abba Sikra, qui était le neveu de Rabban Yochanan ben Zakkai. Kitsour, pas évident cette histoire. En tout cas, Bayit Shlishi, comme vous l'aurez compris, doit être la synthèse entre Bayit Sheni et Bayit Rishon, entre Kedushat HaPrat et Kedushat HaKlal. C'est-à-dire grandir au niveau de ma Torah particulière, mais que ma Torah particulière ne soit plus en porte-à-faux avec mon attachement au Klal Israël. Et donc, que ma Torah particulière ne soit pas non plus, eh bien, une antithèse avec la reconstruction du peuple. Eh oui, quand on nous dit « vaut mieux aller étudier la Torah que de servir dans les rangs de l'armée, parce que c'est la Torah qui nous protège. » Si tu viens et que tu réponds en disant « oui, mais attends, à l'époque du Tanakh, c'était les grands de la Torah qui étaient dans les rangs de l'armée. » Eh bien, on va te répondre « ouais, mais ça, c'était une autre époque. C'était l'époque du Tanakh. C'était l'époque où la Torah, elle était en relation avec le roi, David. » Eh bien, la réponse doit être « eh bien, c'est exactement ce qu'il faut refaire aujourd'hui. » Tout à l'heure, David disait qu'il y a de plus en plus de religieux dans les rangs de l'armée. Mais tu t'imagines si maintenant tous les Haredim y rentrent à l'armée? Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de religieux à l'armée. Et donc, la question de savoir si l'armée, elle sera plus dans la Torah, ben, elle ne se posera même pas. Et la question de savoir si après, ils seront plus impliqués dans les décisions politiques, ben, elle ne se posera pas non plus. Est-ce que... Non. J'ai raté des trucs, deux secondes. Est-ce à cela que le Rav Kook, dans Enaya Brachot Aleph, au tout début du livre, fait référence sur son pérouche de la première Mishnah? Exactement. C'est exactement cela. C'est-à-dire, mais je n'en dirai pas plus volontairement, car mon ami, dans la Yeshiva Online, après la trêve estivale, eh bien, nous étudierons Enaya. Donc,
Arav, rappelez ce qu'est la Yeshiva Online.
Quoi?
Rappelez ce qu'est la Yeshiva Online, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas.
La Yeshiva.
Après, non, le dites pas maintenant, on enverra par mail, Arav. Il n'y a pas laissé tomber.
Bon, ben alors, je ne le dis pas maintenant, on n'enverra pas. À Colton. Bon, quoi qu'il en soit, il y aura un cours sur Enaya qui sera lancé dès la rentrée. Nous sommes plus dans une société totalement agricole. Par quoi seront remplacés les corbanotes? C'est vrai, j'ai pas vu la fin de truc. Par la tefila ou un mix des deux? Je vois pas le rapport entre société agricole et corbanot. Mais mettre que je vois pas le rapport. On n'est plus une société agricole, mais on est une société qui fait de l'élevage industriel énorme. Donc tu vas pas me dire qu'on est en manque de corbanot. Mais t'as pas besoin d'avoir un mouton à la maison. Il suffit que quand tu arrives au Beit Hamikdash, tu l'achètes. C'est pas shoot. Tu crois que le mec qui amène son korban khatat parce qu'il a fait un chet à Paris, il a transgressé Shabbat Beshogeg à Paris, et bien à Pessah, il vient à Jérusalem pour faire Pessah, il doit amener aussi son korban khatat. Tu crois qu'il se trimballe avec son mouton depuis Paris? Il va l'acheter à Jérusalem. Donc c'est pas un problème. Et donc, est-ce qu'on va remplacer les corbanotes par la tefila? Absolument pas. On va refaire les corbanotes et on fera la tefila aussi, ma baïa. Je te rappelle qu'à l'époque du Tanakh, on faisait les corbanotes, et bien on faisait la tefila aussi. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Ça va? En tout cas, Rabotai, donc ça doit être cette osmose de ces deux dimensions. Kdushat HaPrat et Kdushat HaKlal. Semble-t-il que pour arriver à reconstruire cela, ce troisième temple, il faut arriver à cela. Et je pense vraiment qu'on y est là presque. C'est-à-dire qu'on est tout à fait conscient que la reconstruction du peuple juif, elle passe par la Torah. Des fois, c'est pour s'opposer. Des fois, c'est pour dire non, mais la Torah, elle est plus importante que. Ou alors, des fois, c'est pour dire non, l'État, il est plus important que. Mais déjà, quand tu dis que l'un est plus important que l'autre, c'est une erreur. Mais quand tu dis que l'un est plus important que l'autre, tu reconnais l'importance des deux. L'importance des deux. Et donc, on va reconstruire le Beth Amikdash. Mais quand je dis qu'il va durer 830 ans, est-ce que ça veut dire qu'à la fin de ces 830 ans, il va être détruit? Chas v'shalom. Le troisième temple ou cinquième temple ne sera pas détruit. Ne sera pas détruit car on a lu dans la Megillah de Echa, Tam avoner batzion, lo sif leagloter. Rachid nous a dit là-bas que dès qu'on revient de Galout et d'Homme, c'est où, il n'y a plus de Galout derrière. Il n'y aura plus trop Urban Beth Amikdash. Mais qu'est-ce que veulent dire alors Chachmei Anglia quand ils nous disent 830 ans? Eh bien, ils disent lorsqu'on arrivera à l'osmose du Beit Rishon Beit Sheni, 410-420 ans, alors le Beth Amikdash ne sera plus en porte-à-faux du reste du monde. Eh oui. Et je prends les dernières minutes qui me restent pour expliquer cela. Le Beth Amikdash, numéro 1 et numéro 2, ont été détruits. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient été détruits. Il ne reste que 219 ans. Ah oui, maximum. Maximum. Mais on peut très bien faire ça avant. Quoi qu'il en soit, les deux premiers Beth Amikdash ont été détruits. Pourquoi ? C'est tout à fait normal. Le Beth Amikdash, ah ben deux secondes, laisse-moi t'expliquer. Je disais, le Beth Amikdash est présenté dans la Torah comme étant le huitième jour. Vayi bayom hashemini. C'est le jour où Moshe construit le Mishkan, enfin inaugure le Mishkan. Et vous allez me dire, non, mais c'est simplement le Yom HaShemini par rapport au Korbanot HaMilouim. Sauf que Rashi nous explique que non, que c'est le Yom HaShemini par rapport à la création du monde. C'est donc, le Beth Amikdash est donc un représentant du huitième jour. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui est le septième jour. Ce septième jour a commencé dès la création, enfin, dès la sortie de Adam HaRishon du Gan Eden, et continue maintenant depuis 5781 ans. Nous sommes dans le septième jour. Vaivarech Elohim et Yom HaShevi'i Vaikadesh Oto. Nous sommes dans le septième jour. Et donc, tant que nous sommes dans le septième jour, eh bien, le Beth Amikdash, qui est le huitième, fait office de corps étranger. Et donc, le monde le rejette. Lorsqu'on rentre dans le huitième jour, c'est le moment où le Beth Amikdash et le monde ne font plus qu'un. Ou Echalo Shel Makom Zea Olam Kulo. Ou le temple de Dieu, c'est le monde entier. Ce que nous dit le prophète Habakkuk, Vehashem Be'echal Kocho Has Mipanav Kol Haaretz. En d'autres termes, on va reconstruire le Beth Amikdash. Dans l'Antiquité, tous les peuples faisaient des sacrifices. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que ce sera vraiment approprié? Mais évidemment, tu ne te rends pas compte comment les animaux du monde entier sont en dépression totale parce qu'ils ne peuvent plus participer au dévoilement de la Kedusha dans le monde. C'est terrible. Il n'y a plus de steak Bigdusha. Tu te rends compte comment les animaux meurent pour, j'allais dire, pas rien, mais pour pas grand-chose. Donc, Baruch, qu'on va reconstruire Beth Amikdash et refaire les corbanotes, évidemment. Maintenant, le fait qu'aujourd'hui, on continue à penser que le New Age occidental, de dire que ah, c'est archaïque, c'est païen, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont absolument jamais étudié ce que ça voulait dire faire les corbanotes. Les korbanot, c'est rattacher tout le domaine de la création à Kadosh Baruch Hu. Il y a des korbanot du végétal, il y a des korbanot de l'animal, il y a des korbanot, entre guillemets, du minéral, nisuch ha-maim, et le fait qu'on mette du sel sur chaque korbanot, c'est le minéral. En d'autres termes, quand l'homme fait les korbanot, eh bien, les quatre dimensions de la création, minéral, végétal, animal et homme, eh bien, se rattachent à Kadosh Baruch Hu. Donc, les korbanot, c'est fantastique. Bezrat Hashem, on pourra les refaire. Bimera Be'amen. En tout cas, donc, je le disais, on va construire le Beth Amikdash. Et ça va peut-être mettre 830 ans avant que la Kedusha, qui dans un premier temps ne sera ressentie que au Beth Amikdash, ou du moins avec une puissance énorme au Beth Amikdash, eh bien puisse petit à petit s'emparer du monde entier. 830 ans, ça veut dire que c'est le moment où, semble-t-il, le monde entier deviendra Beth Amikdash. Monsieur Abraham Korshia, je suis désolé, mais le Rambam ne dit absolument pas que les korbanot disparaîtront à l'époque du Mashiach. C'est un mensonge éhonté. Je ne vous accuse absolument pas parce que je pense que vous l'avez entendu de d'autres gens. Mais je vous invite à relire tout simplement le Rambam Ilchot Melachim ou Milchemotehem, chapitre 12, où le Rambam nous dit noir sur blanc, chapitre 11 et 12, où le Rambam nous dit noir sur blanc qu'on recommencera à faire tous les korbanot. C'est-à-dire, donc non, le Rambam ne dit pas qu'il n'y aura plus de korbanot, il y aura les korbanot. À quoi le sever ? J'attends avec impatience mon steak Big Doucha. Donc je vous en prie, ne me le prenez pas de la bouche à quelques heures de la fin de Tisha B'Av. Ce n'est pas sympa du tout. Quoi qu'il en soit, cette dimension de 830 ans, c'est semble-t-il le temps qu'il nous faudra pour faire en sorte que la Kdushat Hamikdash s'élève dans le monde entier. Et c'est ce qui rejoint les paroles du prophète Zecharia, où Zecharia Hanavi nous dit que viendra un temps où il y ait Kol Sir Birushalayim Kodesh. C'est-à-dire quoi? Normalement, au Beth Amikdash, il y a des ustensiles du Beth Amikdash qui servent à cuisiner le korbanot, qui sont du domaine du Kodesh. Mais les autres casseroles que j'ai chez moi à la maison ne sont pas Kodesh. Dit le prophète Zecharia, viendra un temps où il y aura tellement de korbanot que tous les casseroles de Jérusalem seront Kodesh. Et il continue en disant, Vayal metzilot tasus Kodesh Hashem. Il y aura même marqué sur les bijoux qu'on met sur les chevaux une couronne où il y aura marqué Kodesh Hashem. Nous, on connaît ça comme étant la couronne du Kohen Gadol. Et bien, ça te montre que la Kedusha va tellement s'amplifier que même les chevaux porteront une couronne où il y aura marqué Kodesh Hashem. Ça te laisse imaginer la Kedusha qu'aura le Kohen Gadol Bichlal. Mais il y a quand même la vision de la Tzimchonout du Rav Kook à prendre en compte. Oui, bien sûr, le Rav Kook lui aussi pense qu'il faut refaire les korbanot. Et le Rav Kook te dira aussi que la Torah ne change jamais et que donc, si la Torah a dit qu'on fait des korbanot, eh ben on continuera à les faire. Seulement, la Torah a dit qu'on n'a pas le droit de faire de korbanot humains. Et donc, nous dit le Rav Kook dans Chazon HaTzimchonout VaShalom que lorsque l'animal s'élèvera au niveau de l'homme, alors on ne fera plus de korbanot de l'animal. Mais on continuera à faire des korbanot du tzomer qui sera élevé au niveau de l'animal. En d'autres termes, lorsque la carotte se mettra à dire et que le bœuf dira « Comment ça va ?», alors on arrêtera de sacrifier les bœufs. Ça a l'air, mais on n'y est pas encore. Donc, ne t'inquiète pas. Mais la notion du septième jour n'est pas en contradiction avec l'histoire des 6000 ans, comme chaque millénaire représente un jour jusqu'au septième. Eh bien, non, pas du tout. Le septième jour, c'est les 6000 ans de l'histoire. Lorsqu'on nous dit dans le livre de Tehilim, qui élève Shanim Be'einecha, que Yom Etmol qui Yavor, eh bien, c'est du point de vue de Dieu, pas de notre point de vue. C'est-à-dire, on te dit, les 6000 ans de la création, toi, Ribono Shel Olam, tu peux les faire correspondre à. dans ton point de vue. Mais de notre point de vue, les 6000 ans de la création de l'homme, c'est le septième jour de la création de Dieu. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, à ce moment-là, la Kdusha aura atteint une telle ampleur, eh bien, que le monde entier pourra ressentir la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ah, alors est-ce que ça veut dire, eh bien, que Eretz Israël n'aura plus un sentiment particulier par rapport au reste du monde? Non! Je vous rappelle que Akadosh Baruch Hu a amoindri la lumière de la lune et que viendra un temps où il amènera Kapara à la Yareach. Et on nous dira, se réaliseront les paroles du prophète qui diront que Vetie or alevana ke or achama, que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, virgule, et la lumière du soleil, Shivatayim, 7 fois plus forte. En d'autres termes, lorsque eh bien, les nations du monde se seront élevées au niveau d'Israël, que toutes les terres du monde se seront élevées au niveau de la terre d'Israël, eh bien la terre d'Israël chopera un bonus. C'est-à-dire, et Am Israël deviendra à ce moment-là tout le monde au niveau de Kohanim, et les Kohanim deviendront tous au niveau du Kohen Gadol, et le Kohen Gadol, comme dit si bien le Rav Cherki, atteindra le niveau de Superman, Veyesh Omrim, Spider-Man, mais ça c'est une machlokot. Voilà, Sheniske, Bimera Be'amenu, Lebinyan Betamikdash, et pourquoi pas dans le timing que j'ai annoncé, ou voire même avant, וניסקה לאכול סטייק בקדושה ביחד בבית המקדש בתשעה באב שנה הבאה, אמן, כן יהי רצון.